Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
Bonjour, bienvenue à vous. Nous sommes le dimanche 24 octobre au programme de la matinale week-end. Nos journaux, nos débats et nos rendez-vous, bien sûr, politiques. Louis de Raguenel nous dira pourquoi le gouvernement n'impose pas le pass sanitaire dans les meetings et les scrutins. Évasion, Vanessa Zah nous emmènera dans le berceau d'Halloween en Irlande. Et puis sans oublier, à 8h40, Jean-Pierre Elkabbach, son invité ce matin, Édouard Durand, juge des enfants pendant 17 ans. Il co-préside la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Prenez le temps de vous informer avec nous. Bon réveil. Merci d'écouter Europe 1, il est 7h. On est ensemble pour 2 heures d'infos en direct avec bien sûr Elisa Lukavski. Bonjour. Bonjour Elisa. Et pour notre débat juste après le journal, on accueille Paulina Dallmayr. Merci d'être avec nous. Et Rémi Carlu, merci également d'être avec nous. Bienvenue à tous les deux. D'abord les titres de ce dimanche matin. Dans 6 mois, très exactement, nous découvrirons le visage de celui ou celle qui sera le 9e président de la 5e République. Mais qu'en est-il réellement de l'intérêt des Français pour la politique? Combien d'abstentionnistes potentiels? On en parlera dans notre débat. La polémique toujours à Fréjus après la démission de 15 bénévoles des Restos du Cœur. Ils ont refusé de servir à manger à des sans-papiers alors que la charte des Restos demande respect et solidarité envers toutes les personnes démunies. Les détails dans ce journal et les questions dans notre débat. Et puis OM-PSG, un incontournable de la Ligue 1 ce soir. Neymar est dans le groupe mais les supporters parisiens ne sont pas du voyage. Les tensions sont trop fortes. Un dispositif de sécurité est prévu pour éviter tout risque de débordement. Éric Zemmour, toujours en Normandie ce week-end, en attendant Caen aujourd'hui. Il s'est rendu à Touques, près de Deauville hier, avec une déambulation dans les rues. Une image très symbolique d'un presque candidat, Elisa.
Ils étaient plusieurs centaines à s'être réunis pour l'accueillir dans la ville du Calvados, devant l'église désacralisée Saint-Pierre. Toujours pas candidat à la présidentielle. L'annonce pourrait ne plus trop tarder. Hein. Lui qui multiplie les rendez-vous au contact de la population, officiellement dans le cadre de la promotion de son livre. Les explications d'Emma Guessel.
Cela devait être une simple séance de dédicace, mais une nouvelle fois, l'accueil réservé à Éric Zemmour est celui d'un candidat à la présidentielle. Le polémiste lui maintient le suspense, mais se glisse de plus en plus dans la peau d'un homme politique. À Touques hier, visite chez le seul boucher de la ville.
Le meilleur.
Vous êtes le seul et le meilleur.
Exactement. Hein ?
Dans les sondages, Éric Zemmour est au coude à coude avec Marine Le Pen. Mais ses partisans, eux, ont clairement fait leur choix.
Une préférence pour Zemmour parce que je ne suis pas certaine que Marine Le Pen ait envie d'avoir le pouvoir et de gérer le pouvoir et je ne sais pas si elle est compétente pour ça.
Je pense que les gens ils ont besoin de nouveautés. Le Pen, entre le père et la fille, ça fait déjà pas mal de temps que ça dure. Éric Zemmour, on a un discours qui est vrai, authentique, qui parle aux Français avec des mots simples, qui ne fait pas de politiquement correct, ça on comprend. C'est ce que les gens ils ont envie.
Du changement et des propositions donc. Mais pour le polémiste, ce n'est pas encore la question.
L'élection présidentielle, ce ne sont pas d'abord des propositions. C'est parler de la France. Après, on peut discuter de comment on y arrive. Mais on a 6 mois.
Des propos qui laissent peu de place au doute. Selon le JDD, l'entourage d'Éric Zemmour est en train de bâtir un nouveau parti politique.
Et Éric Zemmour, c'est le casse-tête pour les partis politiques traditionnels qui tentent de trouver la riposte.
Et notamment à droite avec Christian Estrosi. Le maire de Nice appelle son bord à combattre de toutes ses forces le polémiste dans une tribune publiée ce dimanche dans le journal du dimanche. L'ancien membre des Républicains y déclare Éric Zemmour, ce n'est pas de Gaulle, c'est à peine sa rature. Pour lui, il est la conséquence d'un vide sidéral du débat démocratique avec une gauche et une droite qui n'arrivent plus à convaincre.
Anne Hidalgo est-elle officiellement entrée en campagne avec un premier grand meeting à Lille hier?
Objectif pour la candidate du Parti Socialiste, eh bien rassurer sa famille politique et donner un nouvel élan à une campagne qui démarre timidement. Hein. Elle qui recueille entre 4 et 7% des intentions de vote. Devant 1700 personnes, elle a défendu sa candidature qui, je cite, « refuse la capitulation identitaire ». Elle a présenté également son projet de reconquête. On l'écoute.
Et parce que j'aime trop mon pays pour le laisser aux nationalistes, je viens porter un projet de reconquête. Et cette reconquête, elle est sociale. Cette reconquête, elle est écologique. Cette reconquête est démocratique.
Cette bonne nouvelle pour les jeunes femmes de 18 à 25 ans, la pilule contraceptive sera gratuite dès janvier prochain.
Une mesure adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale dans la nuit de vendredi à samedi, déjà gratuite pour les mineurs. La prise en charge intégrale de la pilule contraceptive sera étendue jusqu'à 25 ans. Un dispositif qui devrait concerner 3 millions de jeunes femmes. Les explications d'Ozlem Unal.
C'est une bonne nouvelle pour les jeunes françaises. Dès le 1er janvier, la pilule contraceptive devient gratuite pour les femmes jusqu'à 25 ans.
C'est une très bonne chose, puisque déjà entre 18 et 25 ans, on a un âge où financièrement on n'est pas très stable.
Je pense que rendre gratuit, ça va faciliter les choses et éventuellement le dialogue. Je pense que si c'est gratuit, potentiellement elles pourront en parler également en pharmacie.
Lever un tabou, c'est aussi l'espoir de Yorick Berger, pharmacien.
Si c'est pour éviter des IVG, c'est hyper intéressant, c'est important parce qu'on en arrive à des complications à la fois médicales mais aussi d'ordre psychologique.
Jusque-là, la pilule était gratuite uniquement pour les mineurs. Le ministre de la Santé souhaite étendre sa prise en charge à plus de femmes, certaines renonçant à la contraception à cause de son coût. Une belle avancée pour la députée Alban Gaillot, mais elle veut aller plus loin.
J'avais déposé un amendement afin d'étendre cette mesure jusqu'aux 31 ans. C'est une préconisation à la fois du planning familial et du Haut Conseil à l'égalité.
La consultation chez un médecin pour obtenir une ordonnance devient-elle aussi gratuite? Au total, 3 millions de femmes seraient concernées par cette mesure.
Le sport, on va parler de ski. Tiens, ça commence le début de la saison de la Coupe du Monde et la victoire de Michael Schifrin hier.
Oui, ça se passait dans le Tyrol autrichien du côté de Soldon. 70e victoire en Coupe du Monde pour Michaela Schifrin, l'américaine de 26 ans sur le géant. Elle devance de 14 centièmes. La Suissesse est championne du monde de la discipline Lara Gout-Bérami. La Française Tessa Worley prend la 8e place ce dimanche. Place aux messieurs, toujours avec le géant, et ça se passe toujours à Soldon.
Et puis du football.
Et du football avec Lille-Brest pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Les Lillois qui n'y arrivent toujours pas. Un troisième match sans s'imposer après ce nul concédé sur leur pelouse face à Brest. 19e du championnat, ça avait pourtant bien commencé pour le champion de France en titre avec l'ouverture du score de Jonathan David contre l'Orienté de toute beauté. Moins d'un quart d'heure plus tard, égalisation de Romain Fèvre. Partout, Lille 9e ne se place pas dans les meilleures dispositions avant un calendrier chargé. Ils affrontent le PSG en championnat et le FC Séville en Ligue des champions, tout ça en l'espace de seulement 10 jours.
Et puis le PSG qui est attendu ce soir à l'OM, c'est un grand classique de la Ligue 1. Sans les supporters parisiens, on craint des débordements. On parlera de la violence dans les stades qui est récurrente depuis le début de la saison avec notre invité dans la prochaine demi-heure après 7h30. Merci beaucoup Elisa, à tout à l'heure pour un nouveau journal. Tout de suite, un coup d'œil sur votre météo de ce dimanche. Avec vous, Karine Durand, est-ce que ça reste aussi beau qu'hier ou pas?
Presque. À l'est, on a de très belles conditions ensoleillées toute la journée après les grisailles matinales. Par contre, à l'ouest, ça commence doucement à se dégrader avec une nouvelle perturbation qui atteint justement la pointe bretonne, qui s'étale progressivement sur la Normandie, les pays de la Loire, quelques entrées maritimes par contre sur le golfe du Lion, partout ailleurs du soleil. Les températures sont de saison au nord au cours de l'après-midi, 15 à Paris, 18 du côté de la pointe bretonne. Elles sont douces et très agréables sous le soleil en Méditerranée, jusqu'à 23 pour Marseille et 23 également pour Ajaccio.
Merci beaucoup Karine, à tout à l'heure, tout de suite, le débat.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
7h08, très exactement, face à face ce matin. Paulina Dallmayr, journaliste et auteure de Les Héroïques, paru chez Grasset, et Rémi Carlu, journaliste à l'Incorrect. Le 24 avril 2022, donc, dans 6 mois, jour pour jour, on sera à quelques heures de l'annonce du ou de la nouvelle présidente de la République. 6 mois, c'est une éternité, mais ça risque de passer très vite, surtout avec cette campagne qui a démarré, on l'a vu, sur les chapeaux de roue. Mais est-ce que les Français ont vraiment la tête à la présidentielle et où en sont-ils vraiment aussi avec les politiques? On en parle ensemble juste après ce reportage d'Élodie Huchard.
Élection après élection, l'abstention bat des records. Lors des dernières régionales, elle a atteint plus de 66% au premier tour. La politique ne parle plus aux Français, selon l'avis de François Hollande.
Les Français aujourd'hui sont très loin de la politique. C'est d'ailleurs là une inquiétude. Vous avez vu le niveau d'abstention de dernier scrutin. Ils se disent, est-ce qu'on parle de nous dans cette campagne?
Et les Français sont d'accord avec l'ancien chef de l'État. La politique et les promesses, ils sont lassés.
De pire en pire. Ce sont des grands menteurs. C'est vraiment, je pense que le mot mentir a été fait pour les politiques.
Ce qu'il promet, Ils promettent ça pendant les élections, tout, et puis après ça, sous le tas, ils ne le font pas.
Même si certaines veulent rester optimistes.
Il n'y a rien qui me convient, mais je pense qu'il ne faut pas être passif, justement.
Selon un sondage Prezitrac, Opinionway pour les Échos et CNews, 48% des Français se disent intéressés par ce début de campagne présidentielle. C'est 2 points de plus par rapport au mois dernier.
Et c'est un petit peu moins de la majorité des Français qui s'intéressent à cette élection présidentielle. Est-ce que finalement l'abstention n'est pas la principale candidate de cette élection ? Paulina Dallmayr.
Peut-être, mais je pense qu'il y a des nuances à apporter en fait à ces résultats. C'est-à-dire la défiance des Français envers les hommes et les femmes politiques est à nuancer dans le sens où on sait, à partir de sondages et des enquêtes d'opinion, que les Français font confiance aux élus locaux. Ils font confiance à leur maire, par exemple. Ils ne font pas confiance aux partis politiques. Ils ne font pas confiance à la politique qui se déroule à un autre niveau, le plus haut. C'est ça la question, en fait. C'est-à-dire que ça montre clairement le détachement entre les peuples, d'une part, et les élites, d'autre part. Et il y a encore une autre nuance à apporter, c'est-à-dire le rapport général des Français aux gens. Je me souviens d'une enquête qui a été menée à un niveau européen au début des années 2000, où les Français sont parus comme les peuples qui font très peu de confiance aux gens en général.
Donc c'est ça. Pas seulement aussi. Aux politiques.
Pas seulement
bon, ça, c'est
aux
une
politiques.
Spécificité française, alors.
Donc voilà, c'est ça aussi, si vous voulez, la spécificité française. Et maintenant, la question qui se pose par rapport à ça, est-ce que la défiance, de facto, n'est pas incompatible avec la démocratie ? C'est pas ça la question. La question, c'est l'aliénation de l'électorat et des Français. C'est-à-dire, est-ce qu'on a atteint ce niveau ou non, le détachement total ? Je ne pense pas. Je pense qu'en effet, les résultats le montrent bien, les Français s'intéressent à cette campagne.
Rémi Carlu, est-ce que effectivement, les Français ne sont pas si désintéressés qu'on peut l'imaginer de la politique ?
Non, je pense pas qu'ils soient désintéressés. Il faut mettre en fait une nuance. Les Français ne sont pas loin de la politique, mais ils se sentent loin de la classe politique en tant que telle. Ce sont les personnalités qui visiblement posent problème vis-à-vis de l'opinion, mais le peuple français, le peuple politique par essence, il l'a témoigné tout au long de son histoire et continuera de le faire. C'est la classe politique actuelle qui est décrédibilisée, si je puis dire. C'est ce qu'on voit dans les témoignages, dans les micro-trottoirs qui viennent de nous être présentés, avec ce premier critère qui est celui du mensonge ou de la trahison des promesses des hommes politiques. Et il suffit de penser à l'histoire politique récente française pour avoir des exemples. On peut penser à la fracture
sociale. Sur les 40 dernières années, il y a une insatisfaction totale.
On peut penser à la fracture sociale de Jacques Chirac. Aujourd'hui, la fracture sociale est béante. On l'a vu avec les Gilets jaunes. On peut penser évidemment au référendum de 2005 qui nous a été resservi par voie parlementaire en 2007. On peut penser à la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'identité, qui sont des thèmes qu'il n'a pas traités. Et qu'aujourd'hui, on se prend en pleine face. Il y a la campagne de François Hollande qui avait été très à gauche et qui, ensuite, quand il arrive au pouvoir, a fait une campagne, une présidence, une mandature faite au centre. Donc voilà, il y a cette historique-là de 30, 40 années de politique où, globalement, les politiques se font lire sur des lignes idéologiques et puis ensuite gouvernent à peu près de la même manière au centre. Et d'où ce désaveu des Français.
Est-ce que c'est ce qui explique le succès de cette campagne, qui n'en est pas une puisqu'il n'est pas encore candidat, mais de cette tournée, en tout cas, d'Éric Zemmour? C'est ce que disait Nicolas Sarkozy. Il expliquait la percée d'Éric Zemmour par le vide de l'offre politique.
Il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a aussi ce dont parlait Christophe Combedal, ils ont au moment de l'apparition de Suicide français, c'est-à-dire la zemmourisation des esprits. C'est-à-dire, je crois que Zemmour a rencontré en fait l'esprit français au bon moment. On parle de la droitisation de sociétés européennes en général, pas seulement des Français, parce que ce sont des phénomènes qui sont observables aussi bien en Europe de l'Est
qu'en Italie,
en Grande-Bretagne. Et il tombe en quelque sorte au bon moment, c'est-à-dire ce qui faisait son terreau depuis plusieurs années rencontre en fait un état d'esprit et les préoccupations des Français. Donc c'est la conjonction de deux qui fait son succès et aussi une attente qui paraît un peu étrange et surprenante aux étrangers, mais les Français élisent toujours leur roi, leur sauveteur. Et Zemmour apparaît un peu dans cette posture-là. D'ailleurs, j'ai regardé un de vos journalistes hier qui parlait de rencontre de Zemmour en Corse, où les gens s'adressaient à lui en disant « Sauve-nous ».
Même si, pour 70% des Français, il n'a pas l'image d'un président.
Exactement. Exactement. Mais il y a cette posture presque bonapartiste qui tombe au moment opportun pour lui.
Rémi Carlu.
Bien sûr, oui, c'est la grande mythologie française de l'homme providentiel, qui est notamment très bien détaillée par Raoul Girardet dans son ouvrage sur les mythologies politiques. Alors pour le cas Zemmour, je crois qu'il y a vraiment deux niveaux d'analyse. Il y a d'abord simplement la fraîcheur et la nouveauté du candidat, ce qu'avait déjà fait Emmanuel Macron en 2017. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une classe politique qui est décrédibilisée.
On voit d'ailleurs les adhérents des partis traditionnels comme au PS ou chez les LR qui se désinscrivent, qui se désintéressent de leur parti traditionnel.
Absolument, et on a l'impression en fait que tous les 5 ans, en fait, les Français vont chercher un nouveau visage. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le premier niveau d'analyse. Donc simplement sur la posture, si vous voulez, la nouveauté dans le milieu. Et puis de vieux, il y a quand même avec Éric Zemmour en fait une rencontre idéologique entre lui et le peuple français, c'est ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que globalement, la désapprobation pour les élites politiques françaises s'inscrit dans un cadre idéologique, qui est celui de la sécession des élites, le travail, vous savez, de Christopher Lasch, qui explique qu'en gros, il y a une élite politique qui est mondialisée, qui a fait sécession avec le peuple, ce qu'on appellerait aujourd'hui la France périphérique. Et Éric Zemmour, lui, s'inscrit tout à fait à l'encontre de ça, en essayant de reparler de la France, de reparler à cette France périphérique, en lui expliquant que si elle ne veut pas mourir, il faut qu'elle se reporte sur lui. Donc je crois que ça, c'est le niveau d'analyse idéologique qu'il faut faire de cette dynamique Zemmour.
Je voudrais qu'on parle rapidement, puisque le temps défile vite, mais de Fréjus, avec cette démission polémique qui fait beaucoup parler, celle de bénévoles des Restos du Cœur qui refusaient de servir des sans-papiers. Écoutez la réaction du maire de Fréjus, David Racheline.
Ils ont préféré démissionner, la quinzaine de bénévoles de l'antenne locale.
Alors, on va peut-être écouter le maire de Fréjus, le maire Rassemblement National, David Racheline, à propos de cette démission des bénévoles des Restos du Cœur. Bien, visiblement...
Je ne pense pas qu'il faille laisser mourir les gens de faim. Je donne moi-même aux Restos du Cœur... Enfin, la commune de Fréjus donne des subventions aux Restos du Cœur. Les bénévoles ont toujours fait ce travail-là. Simplement, vous avez un certain nombre de directives administratives qui leur disent, quand vous avez une petite dame retraitée française qui a oublié un papier... vous ne pouvez pas l'enregistrer dans l'ordinateur et donc la faire bénéficier des colis et repas. Et en revanche, quand vous avez un certain nombre d'autres personnes ayant l'espèce des sans-papiers, alors là, il n'y a besoin d'aucun document, etc. C'est ce deux poids deux mesures qui, je crois, a choqué les bénévoles. Maintenant, voilà, ce qu'ils demandaient, c'est simplement qu'on puisse les entendre davantage, qu'on puisse les soutenir, qu'on essaie de résorber cette situation d'insécurité qui était la leur.
Paulina Dallmayr, est-ce qu'on peut comprendre qu'on refuse, même à des sans-papiers, de la nourriture ?
C'est une question qui est extrêmement délicate parce que, de facto, leur mission est de servir, donc de servir sans distinction. Mais en même temps, on peut comprendre que les gens ne veulent pas, en fait, prendre des risques de troubles. Comment résoudre cette question ? Sincèrement, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas, mais...
Rémi Carlu, peut-être ?
Oui, a priori, là, c'est une affaire un peu étonnante. C'est en plus, dans les statuts de Restos du Cœur, c'est écrit que sur ce genre de dossier, ils doivent servir. Il faut voir que le fait d'apporter de la nourriture à quelqu'un relève de ce qu'on appelle le droit naturel, donc qui ne dépend pas d'une nationalité ou d'une carte administrative. Donc, ça me paraît un peu étonnant, mais de même que ce que décrit David Racheline, hein, donc c'est-à-dire si...
Mais est-ce qu'il faut réellement mettre en opposition des Français avec ou sans papier pour simplement donner de la nourriture ?
Mais justement, non, je pense pas. Je pense que ça devrait s'appliquer universellement. Ouais. Enfin, encore une fois, là, c'est du droit naturel qui doit s'appliquer à tout le monde et qui n'est pas conditionné à la nationalité ni à un papier administratif.
Je précise que l'activité a été reprise par d'autres bénévoles à Roquebrune-sur-Argent, c'est juste à côté, pour éviter d'arrêter les livraisons de nourriture. On rappelle qu'on est quand même aussi à l'approche de l'hiver. Merci Paulina Dallmayr d'être venue sur notre plateau, journaliste et auteur de Les Héroïques chez Grasset, et Rémi Carlu, journaliste à l'Incorrect. Dans un instant, Vanessa Zah nous emmènera en Irlande. Elle va nous faire découvrir le berceau d'Halloween. A tout de suite.
La matinale week-end, CNews, Europe 1, Isabelle Moreau.
– 7h30, 7h25 dans la matinale week-end. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez en ce dimanche 24 octobre. Vanessa Zah, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous nous emmenez en Irlande ce matin. Vous nous proposez une évasion pour préparer Halloween. Mais oui, cette saison, et ça aura lieu le week-end prochain.
Alors ça a lieu le week-end prochain, mais ça commence en fait dès ce week-end, les festivités. En particulier avec un festival, le festival de Pooka. Ça se déroule dans les terres ancestrales de l'Irlande. On est au nord de Dublin, dans les comtés de Meath et de Louth. C'est des comtés qui ont énormément côté politique, ecclésiastique. On était vraiment dans le berceau des seigneurs, des rois d'Irlande. Mais c'est aussi le berceau d'Halloween. Ce festival, il dure une semaine. Alors, il est très contemporain. Il n'est pas du tout poussiéreux. Il y a différents rendez-vous, du spectacle de rue, du stand-up, de la musique.
On en a là de la musique. Hein. On est vraiment dans l'ambiance irlandaise.
Et, ben, voilà. Et puis, la mythologie aussi. Alors justement, parlant de mythologie, Pooka, c'est une créature folklorique. Elle a le pouvoir de changer d'apparence et c'est un personnage ancestral du récit irlandais, une ancienne tradition celtique, celle de Samhain. Samhain, en fait, en irlandais, ça veut dire la fin de l'été, parce que vous savez évidemment que Halloween marque la fin de la saison des récoltes et puis le début d'une nouvelle année. Et c'est pour ça que la tradition veut qu'on allume des feux, qu'on se régale grâce à ces récoltes, qu'on joue de la musique et puis qu'on se raconte des histoires, qu'on soit ensemble. Et tout ça, vous allez pouvoir évidemment le vivre pendant une semaine.
Et ce festival se déroule dans quelle ville?
Alors donc évidemment un peu partout en Irlande, dans les terres ancestrales, dans deux trois petites villes dont je vais vous parler tout de suite. Mais j'avais envie de commencer par un tout nouveau donc participant, c'est le château de Slan. C'est un site très important du patrimoine, un site qui attire aussi beaucoup de monde, parce que même U2 est venu travailler un de ses albums, emblématique donc. Et cette année, il va recevoir donc des esprits malicieux, folkloriques, qui vont errer dans les bois. Et puis, les gens qui vont pouvoir s'immerger dans ces bois vont pouvoir aussi tomber sur un très très beau spectacle nocturne qui est mis en scène par un poète irlandais contemporain extrêmement connu, talentueux, qui s'appelle Stephen James Smith et qui emmène tout le monde dans un Darkest Night, excusez-moi.
Il faut être bien réveillé ce matin et bien parler anglais.
Voilà, les deux autres villes, donc incontournables, comme je vous disais, donc Attboy. Alors, Attboy, c'est la ville natale du festival de Pooka. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a découvert, grâce à des anciens manuscrits, que c'était sa colline de Ward, qui a été le lieu du plus grand rassemblement, justement, de Samhain. Et là, ce sont des animations dans la mythologie qui vont être proposées et c'est aussi un site extrêmement chargé au niveau de la symbolique de l'Irlande. Et puis, dernière petite ville, Trim, une petite ville irlandaise complètement sortie de l'image d'Épinal, typique, entourée d'un superbe château médiéval et qui va être éclairée de manière assez spectaculaire, comme chaque année, et qui propose une visite freaky.
Qui fait peur.
Et qui fait peur, voilà, pour les familles.
Dernière question, très rapidement, sur la tradition des citrouilles illuminées, c'est comment?
Alors, en fait, c'est assez rigolo. Un conte irlandais raconte qu'un homme du nom de Stingy Jack a voulu jouer en un tour au diable. Évidemment, celui-ci s'est vengé et il l'a condamné à errer sous forme de navet. Un navet, mais à l'intérieur, les feux éternels de l'enfer étaient là pour guider son chemin. Donc en fait, vous l'avez compris, à la base, ce n'était pas des citrouilles, mais des navets, même des pommes de terre de temps en temps, qui servaient de lanterne. Et ce n'est que lorsque les immigrés irlandais sont arrivés en Amérique...
Le navet s'est transformé en citrouille.
Parce qu'on est dans la patrie de la citrouille en Amérique. Voilà. Puis je vous mettrai toutes les petites adresses pour réussir l'escapade sur europe1.fr.
Merci beaucoup Vanessa Zah. À dimanche prochain.
À dimanche prochain.
Cette escapade. Tout de suite, un nouveau journal avec Elisa Lukaski.
Europe 1, CNews, la matinale week-end. Isabelle Moreau.
7h30 dans la matinale week-end. Elisa, à Lyon, des membres d'un groupe de rap ont été interpellés hier.
Ils s'appellent les Dalton et ils ont été interpellés en plein rodéo urbain dans les rues de la banlieue lyonnaise. Ces derniers mois, ces membres d'un groupe de rap du 8e arrondissement de Lyon étaient apparus dans plusieurs clips où ils réalisaient justement des rodéos sauvages sur la voie publique. Les explications de Marion Delpech.
Clap de fin pour une partie des Dalton. Habitués des rodéos sauvages en plein centre-ville de Lyon, ces individus vêtus de jaune et noir ont été surpris hier par un dispositif de police. Trois d'entre eux ont été interpellés et placés en garde à vue selon la police nationale du Rhône. Et ce, alors qu'ils venaient de faire part sur les réseaux sociaux de leur intention de rouler à toute allure sous les fenêtres du maire de la ville. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a réagi à ces interpellations.
Aucune impunité face aux rodéos urbains qui pourrissent la vie des habitants de certains quartiers. Merci aux policiers de Lyon pour cette opération qui vient mettre un coup de frein à ces pratiques inadmissibles et dangereuses.
Le collectif des Dalton, estimé à une dizaine d'individus, s'était fait connaître par le tournage sauvage de clips mettant en avant des armes et de la drogue, ainsi que la pratique du rodéo urbain dans les rues de Lyon.
Éric Zemmour, toujours en Normandie, il est attendu à Caen aujourd'hui. Il s'est rendu à Touques hier avec une image très symbolique d'une déambulation dans les rues auprès des Français, Elisa.
Oui, plusieurs centaines de personnes étaient là pour l'accueillir dans les rues de la ville du Calvados, devant l'église désacralisée Saint-Pierre notamment. Toujours pas candidat à la présidentielle, hein, l'écrivain et polémiste, mais il multiplie ces dernières semaines les rendez-vous au contact des Français. Au programme hier, séance de dédicace et le tour des commerçants de la commune.
Et il sera le premier invité d'une nouvelle émission demain sur CNews à 10h30, Face à la rue. Le polémiste attendu dans les rues de Drancy en Seine-Saint-Denis. Anne Hidalgo est-elle officiellement entrée en campagne? Hier, c'était à Lille.
Objectif pour la candidate du Parti Socialiste, rassurer sa famille politique et donner un nouvel élan à une campagne qui démarre timidement. Hein. Elle qui recueille entre 4 et 7% des intentions de vote. Reportage sur place de nos envoyés spéciaux Marion Delpech, Florian Tardif et Damien Deparnay.
Je me battrai et je me battrai pour vous jusqu'à la victoire.
Anne Hidalgo en quête d'un nouveau souffle. À Lille, la candidate s'est montrée déterminée lors de son premier meeting de campagne devant les 1700 militants et élus socialistes galvanisés par les discours de Martine Aubry et de Bernard Cazeneuve. La maire de Paris a tenté de relancer sa campagne.
Une candidature portée par une femme qui portera aux femmes de notre pays une attention nouvelle pour celles et ceux qui souffrent de violence ou de discrimination.
Pour tenter de l'emporter, la candidate socialiste veut s'appuyer sur les élus locaux.
Tous ces élus, cette équipe de France des maires que j'ai rencontrés, qui sont venus me chercher, que je suis allée voir sur le terrain, avec laquelle nous avons travaillé. Et aujourd'hui, nous sommes là avec cette force politique qui va nous permettre de nous déployer partout.
Un ancrage local dont Anne Hidalgo aura bien besoin pour créer une dynamique autour de sa candidature.
Le Covid, la prudence reste de mise en France. Les derniers chiffres, Elisa.
23 décès supplémentaires en 24 heures, 343 nouvelles admissions en soins critiques sur la dernière semaine. Et puis vous le voyez, 6291 cas ces dernières 24 heures. Pour Arnaud Fontanet, épidémiologiste et professeur à l'Institut Pasteur, il ne faut pas baisser la garde. Il déclare dans les colonnes du journal du dimanche, on s'attend à une poursuite de la hausse des contaminations à cause de deux facteurs, la météo et la baisse de l'efficacité des vaccins contre l'infection.
Et parmi les nombreuses conséquences du Covid, les salles de sport, dont l'activité a été largement entamée, mais qui reprend très lentement.
Après 11 mois de fermeture lors des différents confinements, ces établissements avaient misé sur la rentrée pour faire le plein, mais pour beaucoup, la reprise est plus compliquée que prévu. Les explications de Jean-Luc Thomas et d'Anthony Favalli.
Septembre et octobre sont traditionnellement les mois les plus importants de l'année pour les salles de sport. Mais cette rentrée 2021 est plus difficile que les autres. Comme nous l'explique Miguel Mestre, gérant d'une salle à Cugnot, en Haute-Garonne.
Le retour attendu n'est pas là. Les adhérents effectivement reviennent, mais à petite dose. Mais surtout les nouveaux adhérents sont compliqués à faire venir. Il y a différentes raisons. Hein. C'est qu'ici il fait beau encore, donc les gens préfèrent être dehors, que ce soit sur les esplanades ou effectivement faire du sport dehors. Et puis effectivement le pass sanitaire, même s'il nous permet de rester aujourd'hui ouvert, on ne se plaint pas, mais quelque part crée un frein pour certains à l'inscription.
En France, depuis un an, 30% des salles de sport ont définitivement fermé. Le secteur est convalescent, l'avenir reste incertain.
Il va falloir faire les comptes dans 6 mois, quand effectivement les aides seront complètement arrêtées. Parce qu'on sait très bien, nous en tout cas, notre business model, quelle que soit la salle de sport, il nous faut entre 12 mois et 18 mois pour récupérer notre clientèle que l'on avait avant. Et on ne va plus avoir d'aide sur pendant un an et demi, donc ça s'avère très compliqué.
Les professionnels du secteur demandent maintenant le prolongement des aides gouvernementales liées à la Covid-19. Seule lueur d'espoir, les salles de centre-ville fonctionnent plutôt bien.
Du sport sur les terrains de foot maintenant avec le classique de la Ligue 1 entre l'OM et le PSG. Elisa, c'est ce soir.
Un match à guichet fermé entre l'Olympique de Marseille, 3e, et le leader parisien. Une affiche de gala que retrouve le public parce que le dernier OM-PSG joué au Vélodrome avec des spectateurs, ça remonte à 3 ans, hein, le 28 octobre 2018. Une rencontre sous tension, même si aucun supporter parisien ne sera présent au Vélodrome ce soir. Le PSG qui se présentera avec ses stars, Neymar, Messi et Mbappé. On écoute les entraîneurs des deux équipes avant ce rendez-vous.
La meilleure manière de réduire les chances du PSG est de contrôler le jeu, contrôler la possession et faire attention aux pertes de balles. C'est ce qu'il faut faire face à une équipe efficace sur les attaques rapides.
Pour nous, il est indispensable de gagner. Un classico se joue pour être gagné et rien d'autre. Si on peut gagner en jouant bien, ce serait parfait.
Si se peut jouer bien et se peut gagner, ce serait parfait.
On sait très bien ce qu'un classico représente pour le club et les fans, et évidemment pour le staff et les joueurs aussi. Cela représente quelque chose de spécial, pas comme les autres.
Este tipo de partidos no son iguales a los demás.
Merci beaucoup Elisa Lucasquet. Tout à l'heure, 8h pour un nouveau journal. À quelques heures de ce coup d'envoi, on s'intéresse à ces violences qui se multiplient dans les stades depuis le début de la saison. Elisa Lucasquet nous l'a dit, le contexte est tellement tendu que les supporters parisiens sont interdits de déplacement à Marseille. Arnaud Tulipier, bonjour. Vous êtes journaliste chez France Football et 90 Football. Merci d'être avec nous dans la matinale week-end. Je voudrais vous faire écouter cet appel au calme que vient de lancer le meneur de jeu de l'OM, Dimitri Payet.
Supporters marseillais, demain, on a besoin de vous. Je sais que voilà, les encouragements, votre présence, les tifos, tout sera réuni. Mais on a besoin de vous aussi, on a besoin d'exemplarité. Que lors d'un classico aussi important que celui de demain, la fête soit belle. Peu importe, c'est de l'extra-sportif, peu importe ce qui se passe sur le terrain, peu importe ce qui peut se passer, le score, pas le score, on a besoin d'exemple. Soyons les premiers à montrer l'exemple à tout le monde. À montrer qu'un classico peut bien se passer.
Arnaud Tulipier, qu'un joueur s'implique autant pour appeler au calme, s'en dit long sur la violence qui règne en ce moment autour des stades de foot.
C'est sans doute, à mon avis, quelque chose qui a été demandé à Dimitri Payet, mais c'est une bonne chose. Je trouve personnellement que les joueurs ne s'impliquent pas forcément beaucoup habituellement. Alors, quand il y a des incidents, ils vont au-devant du public pour essayer de calmer, ça c'est très bien. Mais qu'ils le fassent en amont est une très bonne chose. Je voudrais juste un tout petit peu tempérer. C'est vrai qu'on voit pas mal d'incidents ces derniers temps dans les stades. Il ne faut pas confondre ce qui s'est passé, par exemple, à Saint-Étienne, lors de cette journée,
vendredi soir,
où il y a des fumigènes qui ont été lancés, mais pas en direction du public, qui ont été lancés en direction du stade, parce que les supporters ne sont pas contents. Ce qui n'est pas bien, bien évidemment, je ne suis pas en train de légitimer, mais ce n'est pas exactement la même chose que d'essayer de pénétrer dans la tribune d'en face pour essayer de casser la figure à ceux qui ne supportent pas la même équipe que vous. Si vous voulez, il ne faut pas oublier que c'est 1% des supporters qui font ça. Tous les autres spectateurs des stades se tiennent très bien. Donc on est en train de parler d'une part infime des gens qui vont dans les stades, et c'est important de le dire.
Oui, c'est important de le préciser, mais il y a quand même ce résultat-là. On a vu à Montpellier des jets de projectiles sur un joueur, à Nice, un terrain envahi, le match interrompu, au Havre, une altercation entre un fan et un joueur, à Lens, envahissement de terrain, des rixes entre bandes rivales, même si c'est le fait de seulement quelques supporters, on a le sentiment d'une violence qui devient systématique, comme si c'était une mode. Comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer, Arnaud Tulipier ?
Je pense qu'il faut remonter bien avant le Covid, parce qu'il y avait eu des décisions qui avaient été prises pour éviter ce genre de débordement qui sont vraiment préjudiciables. Hein. Je les condamne totalement, on est bien d'accord. On va dire que l'exécutif a fait un petit peu du zèle et a parfois trop souvent empêché les supporters de supporter. Il y a eu un ras-le-bol au niveau des supporters qui date d'avant Covid, où ils avaient l'impression de ne pas être pris au sérieux, qu'on ne les entendait pas, qu'on ne les écoutait pas, justement à cause de cette minorité. Et donc, il y a eu un ras-le-bol. Là-dessus est arrivé le Covid, où en fait, tous les déplacements, tous les gens n'avaient plus le droit d'aller au stade, tout simplement. Et monter cette colère, donc, s'est muée un petit peu voilà, les gens étaient désemparés, ne savaient plus trop quoi faire, et c'est comme une cocotte minute, ça a bouilli. C'est pas une raison pour le faire, bien entendu, j'essaie de les expliquer. Excusez-moi si c'est la psychologie à petite semaine, mais je pense vraiment que ça c'est un tout qui finalement a fait que voilà, le chaudron a explosé. Je parle pas que du chaudron de
Saint-Étienne, ouais.
Évidemment.
On l'avait compris.
Et si vous voulez, ce trop-plein a explosé parce que les gens étaient assez loin du stade, et les supporters, il faut savoir un truc, c'est que c'est leur vie, C'est-à-dire qu'ils n'y vont pas forcément pour se battre, ils vont aussi pour supporter leur équipe. Il y a des débordements de, certaines andouilles, ça c'est sûr et certain, mais si vous voulez, il y a cette frustration, un peu comme dans la société actuelle, où finalement le football, et ça c'est un vieux cliché, mais qui est réel, n'est que le reflet de cette société.
C'est la question que j'allais vous poser. C'est vrai qu'on regarde souvent ce qui se passe dans les stades, et c'est une sorte de reflet de ce qui se passe en France. C'est votre sentiment aujourd'hui, et que cette violence que l'on voit dans les stades, c'est un miroir de cette violence contenue des Français après la crise du Covid, avec toute cette frustration accumulée?
Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ce que je viens de vous dire. Il y a eu, je vous dis, ces prémices qui ont fait que pour des incidents qui étaient inqualifiables et où il fallait réagir, il y a eu, on va dire, une surréaction où les supporters avaient plus le droit d'aller à un stade avant même le Covid et de se déplacer, etc. Après, il y a eu cette période. Et donc, si vous voulez, c'est un petit peu comme les gens qui ont été obligés de rester chez eux, qui n'allaient pas au travail ou qui n'avaient pas leurs loisirs habituels. Il y a eu une espèce d'énervement général qui fait que ça se retraduit aussi dans les stades où il y a certains qui ne sont pas malins, hein, on ne va pas dire l'inverse. Il y en a certains qui veulent juste balancer de la caillasse sur le buste adverse. Le buste adverse, pardon.
Merci. Merci beaucoup Arnaud Tulipier. Je rappelle que vous êtes journaliste chez France Football et 90 Football, et je rappelle cet appel au calme lancé par Dimitri Payet à quelques heures de ce match OM-PSG. À suivre, le cinéma avec Laurie Choleva, pas seulement du cinéma d'ailleurs. Vous allez découvrir un formidable documentaire sur l'affaire Ranucci. C'est un terrible fait divers. À tout de suite.
La matinale week-end, CNews, Europe 1, Isabelle Moreau.
Laurie Choleva pour les films à ne pas manquer dans la matinale week-end. Bonjour Laurie.
Bonjour Isabelle.
Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un film, ce n'est pas sur grand écran, mais c'est un documentaire absolument fascinant.
Complètement. Ça s'appelle Dolores, la malédiction du pullover rouge. C'est un docu-fiction en 4 épisodes disponible sur MyCanal qui revient sur le parcours meurtrier de Jean-Baptiste Rambla, le frère de Marie Dolores, petite fille assassinée en 1974 par Christian Ranucci, qui va devenir 20 ans plus tard, donc Jean-Baptiste, le frère qui a assisté à la scène, il doit devenir à son tour 20 ans plus tard un meurtrier. Donc c'est absolument édifiant. Il faut savoir qu'il a 6 ans au moment des faits, quand il voit sa grande sœur se faire emmener devant ses yeux, et s'ensuit ensuite pour lui une vie entière de culpabilité, de violence et de combat judiciaire.
Bonjour les enfants.
1974, Jean-Baptiste Rambla a 6 ans. Il est témoin de l'enlèvement de sa sœur.
Ta sœur, elle est restée avec le monsieur?
Oui.
C'est l'horreur qui entre dans cette famille.
30 ans plus tard, Jean-Baptiste Rambla bascule et commet son premier meurtre. Chronique d'une époque entre tempête judiciaire, politique et médiatique.
Alors c'est vraiment un excellent documentaire réalisé par Julien Seri qui vient du cinéma, et ça se sent. En fait, il mélange vraiment le côté documentaire avec des images d'archives, des témoignages, et en même temps le côté reconstitution à travers la fiction. Donc on se rend compte vraiment de toutes les circonstances qui ont amené Jean-Baptiste Rambla, enfant solitaire, enragé, blessé, à sombrer à son tour dans cette folie meurtrière. C'est un enfant qui est rongé par la haine. Il faut savoir que c'est vraiment une innocence qui a été sacrifiée avec la honte, la culpabilité aussi d'avoir laissé sa sœur se faire kidnapper sous ses yeux. Donc voilà, c'est vraiment un documentaire qui fait froid dans le dos, et c'est une histoire vraie.
Oui, il faut le rappeler, histoire vraie. Et puis c'est vrai qu'il y a une profusion de témoignages, vous l'avez dit, mais il y a vraiment tous les acteurs de cette histoire qui ont été retrouvés et qui témoignent dans...
Presque tous, c'est vrai. Tous. Et Julien Seri, le réalisateur, a rencontré Jean-Baptiste Rambla, qui est en prison actuellement, puisqu'il il purge une peine à perpétuité. C'est vraiment dingue de voir comment un petit garçon qui n'était pas destiné à devenir un assassin va le devenir.
4 épisodes disponibles sur MyCanal. Et puis dans un autre registre, tout autre registre,
tout autre
on
registre.
Parle de super-héros.
Mais c'est sombre aussi. Alors après Black Widow, Shang-Chi ou encore Les Éternels qui va sortir en novembre prochain, Marvel ne s'arrête pas là et dégaine son Venom 2 qui est sorti donc au cinéma mercredi dernier. Et je préfère vous prévenir, c'est plutôt sanglant.
Bonsoir Eddie.
Bonsoir Madame Chen.
Bonsoir Venom.
Wan Shang-Hao, Madame Chen.
Il vous dit bonsoir.
J'ai beaucoup pensé à toi, Lady, parce que toi et moi, nous sommes pareils. Quelles que soient les décisions que nous prenons, ce que nous laissons derrière nous, et comment nous les laissons, attendent dans l'obscurité à un sauveur qui ne viendra jamais.
Alors, oui, c'est plutôt efficace. Et alors, c'est drôle parce que les fans de Marvel lui reprochent de ne pas être assez violent. Parce que c'est vrai que Venom, on s'attend avec cet anti-héros à avoir un film très violent. Et il est beaucoup moins que d'habitude. Il faut savoir aussi qu'il est plus court. Il fait 90 minutes, ce qui est plutôt assez court pour un Marvel. On retrouve Tom Hardy dans le rôle donc, de Eddie, cet anti-héros qui cohabite dans son propre corps avec un extraterrestre démoniaque, donc Venom. Donc, c'est un peu son double maléfique. Et à eux deux, ils vont devoir affronter un nouvel ennemi qui s'appelle Carnage. C'est pour ça que Carnage, on se dit, bah, ça va être un vrai carnage. L'alter ego du tueur en série, Cletus Kasady. Donc ça part dans tous les sens. C'est quand même assez sombre. Il y a pas mal d'effets spéciaux. Bon, c'est efficace. Quoi. C'est un bon Marvel.
C'est plutôt réussi.
C'est plutôt réussi.
Donc
et
on
c'est
retient.
Plutôt pour la famille.
Exactement.
Parce que pas trop violent.
Dolores, la malédiction du pullover rouge. Et puis Venom 2. Merci beaucoup, Loris.
Avec plaisir.
Cinéma avec vous.
Europe 1, CNews. Isabelle Moreau, la matinale week-end.
Avec nous maintenant Louis de Raguenel du service politique d'Europe 1. Bonjour Louis.
Bonjour Isabelle.
Alors c'était un peu inattendu, on était en plein voie de la prolongation du pass sanitaire jusqu'en juillet prochain, donc après la prochaine présidentielle, le gouvernement a annoncé que les meetings politiques et les scrutins ne seraient pas soumis au pass sanitaire. Donc on a un petit peu de mal à comprendre, ça signifie que l'exécutif est en train d'assouplir les mesures sanitaires, Louis ?
Je comprends très bien votre interrogation, Isabelle, mais pour être clair, Emmanuel Macron, en fait, n'assouplit rien du tout. Isabelle, on va faire le raisonnement dans l'autre sens. Imaginez la bronca si le gouvernement avait annoncé l'obligation du pass sanitaire pour aller voter ou pour participer à des réunions publiques. Les partisans de Florian Philippot, ceux de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon et même d'une partie de la droite classique auraient hurlé à l'atteinte à la démocratie.
Mais quand même, Louis, ça paraît absurde. Le gouvernement explique matin, midi et soir que la priorité, c'est la lutte contre l'épidémie, le respect strict des règles sanitaires. On peut être verbalisé si on n'a pas le pass sanitaire dans un centre commercial et au même moment, on peut aller à un meeting ou aller voter là où il y a quand même des gens à proximité et là, ça pose pas de problème.
Vous avez raison, il y a un vrai paradoxe, mais le gouvernement considère à raison, si je peux me permettre, que la vie démocratique du pays, le fonctionnement de la vie politique écrase tout, passe avant tout, même avant le virus. Le sujet est suffisamment sensible, pas question de priver certaines personnes d'aller voter et pas question non plus de créer la moindre polémique sur la démocratie bafouée. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, donc qui est aussi en charge des élections, l'a expliqué, je cite, « La participation de tous les citoyens à la vie politique de la nation est l'un des principes fondateurs de notre République. » Et puis, il faut le dire, le gouvernement essaye de retrouver un minimum de cohérence. « Je ne vous apprends rien, la vaccination n'est pas obligatoire et je ne vous apprends rien non plus. Depuis quelques jours, les tests sont payants. »
Donc, si je vous comprends bien, Louis, le gouvernement est en quelque sorte pris à son propre piège ?
Et un petit peu, vous, absolument, Isabelle, vous avez raison. Si on reprend notre raisonnement, justement, si le pass sanitaire était obligatoire pour aller voter ou participer à des meetings, eh bien, cela signifierait que les Français non vaccinés seraient obligés d'acheter des tests pour aller voter, acheter des tests pour écouter des candidats à la présidentielle. Je ne vous fais pas de dessin, ça voudrait dire qu'il faut payer pour voter, payer pour participer à la vie de la société. Autant dire qu'au gouvernement, c'est inconcevable. Pour terminer, il faut quand même préciser que le gouvernement n'a pas pris cette décision tout seul. C'est le Conseil constitutionnel qui la recommande. Et Emmanuel Macron, comme Jean Castex, ne se voyait pas du tout croiser le fer avec les sages de la Ve République.
Donc on va se retrouver dans cette situation un petit peu paradoxale, avec d'un côté le pass sanitaire obligatoire pour plein d'activités, mais pas pour ce qui concerne
exactement,
la politique.
Vous aurez besoin du pass sanitaire pour aller faire vos courses le dimanche matin, et puis vous aurez plus besoin du pass sanitaire pour aller voter.
Non, mais merci pour cette explication. Malgré tout, il faut parfois essayer de démêler tout ça. Merci beaucoup.
Merci Isabelle.
De Raguenel, du service politique d'Europe 1. Vous restez évidemment avec nous dans la matinale week-end avec, dans un instant, le journal de 8h, notre débat, alors qu'Éric Zemmour poursuit sa tournée en Normandie. La droite, vous allez le voir, fait son mea culpa. Vous entendrez Christian Estrosi, le maire de Nice, Gérard Larcher, le président du Sénat, qui parlent chacun à leur façon d'un échec collectif pour expliquer la percée du polémiste. Et puis on se rendra également à Marseille. On est à quelques heures seulement maintenant de ce classique entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Vous allez entendre Dimitri Payet, le meneur marseillais, qui lance un appel au calme à tous les supporters. Et peut-être que, si on a un petit peu de chance, la régie nous enverra le son de ce joueur, Dimitri Payet. C'est assez rare quand des joueurs font directement comme ça appel à leurs supporters sur les réseaux sociaux. Écoutez, et on se retrouve tout de suite.
Supporters marseillais, demain, on a besoin de vous. Je sais que voilà, les encouragements, votre présence, les tifos, tout sera réuni. Mais on a besoin de vous aussi.
on a besoin d'exemplarité. Que lors d'un classico aussi important que celui de demain, la fête soit belle. Peu importe, c'est de l'extra sportif, peu importe ce qui se passe sur le terrain, peu importe ce qui peut se passer, le score, pas le score, on a besoin d'exemples. Soyons les premiers à montrer l'exemple à tout le monde, à montrer qu'un classico peut bien se passer.
Europe 1, CNews, la matinale week-end. Isabelle Moreau.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant dans la matinale week-end avec toute l'info, nos débats et nos rendez-vous. Le docteur Brigitte Millot nous parlera de l'hubris, cette maladie du pouvoir, de l'orgueil démesuré. C'est vogue pendant cette campagne électorale, une chronique santé vraiment d'actualité politique. Mathieu Alterman nous en dira plus, lui, sur le livre de deux figures de l'Amérique, Barack Obama et Bruce Springsteen. Ça sort mardi et c'est très attendu, notamment pour leurs fans respectifs. Et puis dans 40 minutes à peu près, Jean-Pierre Elkabbach et son rendez-vous, son invité ce matin, le juge Édouard Durand. Il copréside la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Merci d'être avec nous et encore une fois, bienvenue dans cette matinale week-end qui se poursuit dès maintenant. Merci d'écouter Europe 1, il est 8h. L'info, toujours en compagnie d'Elisa Lukaski. Rebonjour Elisa. Et puis j'accueille nos débatteurs du matin, Guillaume Bigot, en pleine forme apparemment.
En pleine forme.
Tant mieux. Et Patrick Bonin.
Bonjour.
En forme également ?
En parfaite forme.
Bon, alors bienvenue à tous les deux. On va commencer par les titres de ce dimanche 24 octobre. Et d'abord, cette déambulation à la rencontre des Français, image traditionnelle des politiques en campagne. Sauf que cette fois, c'est Éric Zemmour qui s'est prêté à ce jeu lors de sa tournée en Normandie. Le polémiste multiplie les signes d'une prochaine candidature à 6 mois tout juste du second tour de la présidentielle. La droite, elle, essaye de prévoir la riposte. On en parlera dans notre débat. Clip de fin pour les Dalton, c'est le nom de ces rappeurs d'un quartier de Lyon habillés de jaune et de noir et qui réalisaient des rodéos sauvages sur la voie publique depuis des mois. Ils ont été interpellés hier. OM-PSG, c'est un incontournable de la Ligue 1 qui va se jouer ce soir. Neymar est dans le groupe, mais les supporters parisiens, eux, ne sont pas du voyage. Les tensions sont trop fortes et un dispositif de sécurité est prévu pour éviter tout risque de débordement. On va d'abord, pour commencer ce journal, prendre la direction de Fréjus avec ses bénévoles des Restos du Cœur qui ont choisi de démissionner, Elisa.
Ils sont une quinzaine à avoir pris cette décision, soit la totalité des bénévoles, en cause un désaccord avec leur direction puisqu'ils refusaient de servir des sans-papiers qui se seraient montrés menaçants. Aujourd'hui, l'antenne locale est menacée si elle ne trouve pas de nouveaux bénévoles. Le récit de Yann Eiffel.
Ils ont préféré démissionner. La quinzaine de bénévoles de l'antenne locale des Restos du Cœur de Fréjus quittent leur poste. Ils mettent en avant des problèmes de sécurité et une inégalité de traitement qui bénéficie aux sans-papiers. David Racheline, le maire RN de Fréjus, les soutient.
Vous avez un certain nombre de directives administratives qui leur disent, quand vous avez une petite dame retraitée française qui a oublié un papier, vous ne pouvez pas l'enregistrer dans l'ordinateur et donc la faire bénéficier des colis et repas. Et en revanche, quand vous avez un certain nombre d'autres personnes et en l'espèce des sans-papiers, alors là, il y a besoin d'aucun document, etc. C'est ce deux poids deux mesures qui, je crois, a choqué les bénévoles.
De son côté, l'association se défend des accusations sans toutefois soutenir les démissionnaires. Dans un communiqué, elle rappelle son principe. Au Resto du Cœur, l'accueil doit être inconditionnel.
L'aide alimentaire apportée en centre est uniquement soumise à des critères de ressources définis dans un barème national. Le statut administratif des personnes accueillies ne conditionne aucunement l'accès à l'aide alimentaire.
Une nouvelle équipe devrait prendre le relais dès mardi.
Et en attendant, c'est à Roquebrune sur Argence que le relais continue pour ne pas stopper l'approvisionnement de nourriture. C'est important alors que l'on entre dans l'hiver. Éric Zemmour, toujours en Normandie. Il va être à Caen aujourd'hui. Hier, c'était à Touques, près de Deauville, qu'il a déambulé dans les rues. C'est une image très symbolique, Elisa, pour un presque candidat finalement.
Plusieurs centaines de personnes étaient là pour l'accueillir, notamment devant l'église désacralisée Saint-Pierre. Il n'est toujours pas candidat à la présidentielle, l'écrivain et polémiste, mais l'annonce ne pourrait plus trop tarder, lui qui multiplie les rendez-vous au contact de la population, officiellement dans le cadre de la promotion de son livre. Les explications d'Emma Guessel.
Zemmour, président ! Zemmour, président !
Cela devait être une simple séance de dédicace, mais une nouvelle fois, l'accueil réservé à Éric Zemmour est celui d'un candidat à la présidentielle. Le polémiste lui maintient le suspense, mais se glisse de plus en plus dans la peau d'un homme politique. À tout qu'hier, visite chez le seul boucher de la ville.
Le meilleur.
La logique. Vous êtes le seul et le meilleur.
Exactement. Hein ?
Dans les sondages, Éric Zemmour est au coude à coude avec Marine Le Pen. Mais ses partisans, eux, ont clairement fait leur choix.
Une préférence pour Zemmour parce que je ne suis pas certaine que Marine Le Pen ait envie d'avoir le pouvoir et de gérer le pouvoir et je ne sais pas si elle est compétente pour ça.
Je pense que les gens ils ont besoin de nouveautés. Le Pen, entre le père, la fille, ça fait déjà pas mal de temps que ça dure. Éric Zemmour, on a un discours qui est vrai, authentique, qui parle aux Français avec des mots simples, qui ne fait pas de politiquement correct, ça on comprend. C'est ce que les gens ils ont envie.
Du changement et des propositions donc. Mais pour le polémiste, ce n'est pas encore la question.
L'élection présidentielle, ce ne sont pas d'abord des propositions. C'est parler de la France. Après, on peut discuter de comment on y arrive. Mais on a 6 mois.
Des propos qui laissent peu de place au doute. Selon le JDD, l'entourage d'Éric Zemmour est en train de bâtir un nouveau parti politique.
Voilà qui va compliquer la tâche de certains vacanciers. La SNCF appelle à prolonger son mouvement de grève, Elisa.
En grève pour ce premier week-end des vacances de la Toussaint, les conducteurs de TGV Atlantique sont appelés à poursuivre leur mouvement le week-end prochain à l'appel de plusieurs syndicats. En cause, les conditions de travail et les rémunérations des cheminots. Ce dimanche, un TGV sur 3 est annulé. La SNCF qui a précisé que le trafic reviendra à la quasi-normale dès demain, avant donc ce nouveau mouvement en fin de semaine prochaine.
Oui, alors qu'on sait que les départs en vacances seront nombreux la semaine prochaine, précisément parce que c'est un week-end de 3 jours avec le 1er novembre. On parle de sport maintenant, de football, avec ce classique de la Ligue 1, une confrontation entre l'OM et le PSG ce soir au Vélodrome.
Un match à guichet fermé entre l'Olympique de Marseille, 3e, et le leader parisien. Une affiche de gala que retrouve le public, puisque le dernier OM-PSG joué au Vélodrome avec des spectateurs, ça remonte à 3 ans, le 28 octobre 2018 exactement. Une rencontre qui sera sous tension, même si aucun supporter parisien ne sera présent au Vélodrome ce soir. Le PSG se présentera avec ses stars Neymar, Messi et Mbappé. Côté olympien, évidemment, on comptera sur Dimitri Payet, qu'on va écouter.
Supporter marseillais. Demain, on a besoin de vous. Je sais que voilà, les encouragements, votre présence, les tifos, tout sera réuni. Mais on a besoin de vous aussi, on a besoin d'exemplarité. Que lors d'un classico aussi important que celui de demain, la fête soit belle. Peu importe, c'est de l'extra sportif, peu importe ce qui se passe sur le terrain, peu importe ce qui peut se passer, le score, pas le score, on a besoin d'exemple. Soyons les premiers à montrer l'exemple à tout le monde, à montrer qu'un classico peut bien se passer.
Dimitri Payet qui danse donc un appel au calme, c'est important de le préciser. Les supporters parisiens ne sont pas autorisés à venir à Marseille sur un arrêté préfectoral.
Mais quand même. On se méfie avec tous les incidents qu'il y a depuis la saison.
Exactement.
On préfère être prudent et il fait bien de lancer un appel au calme, le joueur de l'Olympique.
Merci beaucoup Elisa Lukaski. On vous retrouvera pour un point complet sur l'information à 8h30. Un coup d'œil sur le temps de notre dimanche avec vous Karine Durand. Est-ce que ça va rester aussi calme qu'hier ?
Pas vraiment, puisqu'on a quand même une petite perturbation qui commence à arriver par l'ouest. Heureusement, elle est très atténuée, peu active. Elle donne beaucoup de nuages et un petit peu de pluie au cours des prochaines heures de l'après-midi et encore plus de la soirée. Un peu de vent également. On a quelques nuages sur le golfe du Lion poussés par le vent marin partout ailleurs. C'est une très belle journée, surtout à l'est, après les brouillards de la matinée. Les températures sont globalement agréables. Elles sont de saison sur la moitié nord au cours de l'après-midi. 15 sur Paris, 14 en remontant vers Lille. Elles sont douces et le ressenti est vraiment sympathique sous le soleil sur la Méditerranée avec 23 à Marseille et 23 pour Ajaccio.
Merci Karine, à tout à l'heure. Tout de suite, place au débat. CNews.
Isabelle Moreau, la matinale week-end.
Face à face ce matin, donc Guillaume Bigot, politologue, rebonjour à vous.
Rebonjour.
Et Patrick Bonin, communicant, directeur général de l'agence Gene. On est à 6 mois, très exactement, du second tour de la présidentielle. Un second tour où plusieurs sondages, vous le savez, annoncent un duel Macron-Zemmour qui ne sont, on le rappelle, ni l'un ni l'autre candidat déclaré. Zemmour monopolise la campagne aux grand dam des partis traditionnels qui sont complètement bousculés, effacés par cette percée aussi soudaine et spectaculaire du polémiste. Beaucoup vous y voit un échec collectif. On en parle avec vous, Emma Guessel, parce que dans cet échec collectif, on retrouve la droite qui est en train de faire son examen de conscience, en quelque sorte, à l'image de Gérard Larcher aujourd'hui dans les colonnes du Journal du Dimanche.
Et oui, le président du Sénat qui évoque Éric Zemmour comme un phénomène électoral. C'est un miroir, dit-il, que nous tendent des millions de Français qui nous reprochent nos renoncements, notamment sur la question migratoire, l'insécurité et l'identité. Il n'y aurait ni phénomène Le Pen, ni phénomène Zemmour si nous avions mieux traité ces questions. L'immigration, justement, c'est un des sujets sur lesquels Gérard Larcher dénonce l'échec d'Emmanuel Macron avec la loi Collomb. Toutes les obligations de quitter le territoire français allaient être exécutées, nous disait le président de la République. Résultat, 0,3% vers l'Algérie le sont, 2,4% vers le Maroc. Comment les Français pourraient-ils l'accepter? Enfin, Gérard Larcher parle d'échec collectif. Quand Nicolas Sarkozy avait voulu ouvrir le débat sur l'identité nationale, on s'interrogeait, moi le premier, mais il avait raison, conclut-il.
Merci beaucoup Emma pour ces précisions. Si je traduis ce que dit Gérard Larcher, Guillaume Bigot, est-ce que ça veut dire qu'Éric Zemmour n'est finalement que le symptôme des maladies de nos partis politiques traditionnels? D'abord, et en l'occurrence de la droite et des LR.
Je pense que, Isabelle, votre expression de traduction est tout à fait adaptée parce que d'abord il faudrait comprendre ce que veut dire M. Larcher. Ce que j'en ai compris, c'est qu'il y a deux interprétations possibles. Soit il dit finalement nous avons fait des promesses. Le Karcher, par exemple, on s'en souvient, et ses promesses n'ont pas été tenues, le Karcher n'a pas été utilisé. Soit il dit autre chose, soit il dit finalement, nous vous avions raconté des choses, comme le Karcher, et puis nous n'avions aucune intention de les mettre en pratique. Dans, c'est pas tout à fait la même chose. Dans les deux cas, je pense que ce mea culpa ne va pas jusqu'à son terme. Pourquoi il ne va pas jusqu'à son terme? Parce que, vous savez, Dieu se rit des hommes qui veulent les causes dont ils ne veulent pas les effets. À partir du moment où vous placez l'Union européenne au centre, à partir du moment où vous êtes prisonnier d'un certain nombre de dogmes, qui sont les dogmes de la classe dirigeante, tout s'ensuit. Vous voulez l'état de droit, vous allez forcément faire la double peine. Vous allez forcément faire ce que Nicolas Sarkozy a fait, c'est-à-dire alléger les droits de la défense. Vous voulez l'Union européenne, donc vous voulez une monnaie surévaluée, donc vous voulez du libre-échange en même temps. Vous allez désindustrialiser, c'est inéluctable. Alors, est-ce qu'ils vont au bout de ce mea culpa? J'en ai pas l'impression.
Patrick Bonin?
D'abord, à mon sens, c'est une très mauvaise communication. C'est-à-dire qu'en fait, se flageller à un moment où justement on demande d'avoir des idées, c'est déjà une.
C'est la question que j'allais poser. Un examen de conscience avant de commencer l'examen tout court.
C'est un peu particulier. C'est le discours de la méthode, en fait, alors qu'on demande des idées et une réaction. L'autre sujet, c'est que, comme disait Paul Valéry, le monde ne vit que par les modérés et ne vaut que par les extrêmes. On le voit bien, Éric Zemmour a un message simple. D'ailleurs, il y a assez peu de positions, il y a juste une analyse. Et puis, de l'autre côté, les partis traditionnels qui essayent de se glisser dans ce manque de débat, d'ailleurs. Et quand on est au pouvoir, quand on a été au pouvoir, mais c'est le cas aujourd'hui d'un Larcher, comme d'ailleurs d'une candidate à l'élection présidentielle, elle déclarée, qui est la candidate socialiste, il est difficile de se montrer dans le débat, d'avoir des idées sans pour autant réagir à ce qui existe aujourd'hui dans le débat, à savoir des positions ultra simplifiées d'un futur candidat comme Éric Zemmour. Donc en réalité, Éric Zemmour, lui, fixe le cadre du débat public aujourd'hui, quand les autres essayent de se placer sur le giron des idées, d'une politique, et là évidemment c'est moins intéressant, c'est parfois ultra technique, et donc il y a un clash entre des personnes qui ont des idées simples, qu'ils mettent sur la place publique, et de l'autre, ceux qui ont gouverné et qui rentrent dans une technicité de la politique qui est médiatiquement beaucoup moins passionnante. Il ne faut pas s'en cacher.
Guillaume Bigot, c'est la formule des populistes, finalement. C'est comme ça qu'ils se font entendre. C'est ce que je crois entendre de tout ce que dit Patrick Bonin.
On peut dire aussi qu'il y a, la formule des populophobes, si vous voulez. Parce que le populisme n'est qu'une réponse à la populophobie, au mépris de la France, du peuple français depuis 30 ou 40 ans, pour édifier l'Europe, pour faire une dictature éclairée, pour imposer des réformes parce que ces bouseux de Français n'en veulent pas, ils ne les comprennent pas, etc. Ils résistent avec leur fameuse tendance à vouloir de l'égalité, à vouloir une société plus juste, et qu'ils ne veulent pas, ces analphabètes, s'adapter à la mondialisation. En fait, c'est ça le discours en creux de la classe dirigeante. Et il y a deux problèmes. Alors, il y a une citation magnifique, je vais répondre par une autre citation magnifique. C'est Chateaubriand dans Les Mémoires d'Outre-Tombe. Et je ne pense pas que le populisme soit du simplisme. Je pense qu'au contraire, le populisme était du simplisme avec la famille Le Pen. Maintenant, ça change de nature, puisqu'on a un populisme, si vous voulez, plus éclairé, plus cortiqué et à plus haut niveau que cette soi-disant élite.
En quoi est-il plus cortiqué ou plus éclairé, Guillaume Bigot ?
Parce que le calcul qui est fait, c'est que c'est un changement de nature de classe dirigeante. C'est presque un changement sociologique de classe dirigeante. Et donc la formule de Chateaubriand dit la chose suivante dans les mémoires d'Outre-Tombe, c'est se vérifier à toutes les époques de l'histoire. Toutes les classes dirigeantes connaissent trois âges. Elles naissent dans l'âge de supériorité, elles se maintiennent dans l'âge où elles dégénèrent dans l'âge des privilèges, et elles s'éteignent dans l'âge des vanités. La classe dirigeante que le général de Gaulle a mis sur orbite, c'est la classe dirigeante technocrate, c'est-à-dire ce sont grosso modo des énarques, ce sont des ingénieurs, ils ont construit la France de manière extraordinaire dans les années 80, 70, 80, puis ils se sont installés dans l'âge des privilèges, ils sont maintenant dans l'âge des vanités, ils vont tomber comme un fruit mûr pour une raison simple, c'est qu'ils, en fait, ce qu'ils appellent, ce que vous appelez d'ailleurs de véritables arguments techniques, c'est simplement des petits catalogues de mesurettes techno-juridiques en donnant le pouvoir à l'Europe, en voulant la mondialisation et sans vouloir les conséquences inéluctables de ça. Patrick et ça, Bonin. C'est dénoncé de manière très claire.
Patrick Bonin.
Clairement, un Éric Zemmour a un message simple, ultra simple, c'est d'ailleurs souvent ce qu'on...
Simple ou simpliste ?
Alors, simple. Il décrit des choses simples et ça plaît et c'est parfois tant mieux. Et du coup, la chose politique revient sur le débat. Et de l'autre côté, il y a aussi ceux qui doivent tous les jours, on écoutait Olivier Véran, on écoutait d'autres, tous les jours administrer l'État. Alors bien sûr, c'est la technocratie, les experts versus des messages beaucoup plus simples. En revanche...
Est-ce qu'on peut gouverner de façon aussi simple ?
Exactement, la question, c'est peut-on gouverner de manière aussi simple ?
Avec
peut-on
gouverner, vous voulez dire ?
Peut-on gouverner comme un homme comme Éric Zemmour, on le sait, ne pourra gouverner sans l'appui d'une majorité parlementaire et dont on sait très bien qu'aujourd'hui il ne gouvernera jamais parce que forcément il n'aura pas 290 députés qui seront là à porter un message d'Éric Zemmour.
C'est un vrai sujet,
et juste
ça,
un point sur ce que vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas en citant effectivement l'analyse d'Éric Zemmour et celle qu'elle est. Elle est peut-être plus éclairée que des populistes, c'est-à-dire qu'elle est plus assise sur une réflexion intellectuelle, sans aucun doute comparée à ce qu'on a pu connaître il y a 20 ou 30 ans en France. Pour autant, celle-ci n'est pas dans la forme d'une construction politique qui permettra à la France d'avoir un gouvernement et d'avoir la mise en place d'idées. Et c'est bien ça que certains, en tout cas, reprochent à Éric Zemmour. Et juste un dernier point. Certes, elle est beaucoup plus éclairée en termes de recherche académique, universitaire, comme Éric Zemmour. Mais pour autant, elle se heurte aux mêmes freins. Et Éric Zemmour, lorsqu'il critique une classe élitiste politique, il est aussi un homme de médias connu, reconnu. Et donc, au fond, il critique quelque chose dont il est en réalité un héritier, celle de la place médiatique qu'il occupe. Donc, au fond, c'est un discours qui est, oui, certes, simple, et parfois quand même qui confine à une certaine forme de simplisme.
Guillaume Bigot.
Je crois qu'un simplisme peut donc cacher un autre, et que le véritable simplisme, c'est d'expliquer aux Français, depuis 30 ou 40 ans, que si on adapte la France à la mondialisation, tout ira mieux. Si on
baisse... Est-ce qu'on a le choix ?
Bien sûr qu'on a le choix. Évidemment, tous les peuples ont le choix. Toute l'histoire montre que tous les trends que vous considérez comme inéluctables ne sont jamais inéluctables. On a expliqué que l'Union soviétique, on n'en sortirait pas. Moi, je vous dis, gardez vos drapeaux européens. Ça vaudra très cher dans les brocantes demain. Ça ne vaut pas un clou. C'est un édifice historique auquel toute une génération a cru, qui ne s'appuie pas sur le réel. Et en fait, c'est pas seulement qu'elle est... C'est une idée plutôt sympathique, contrairement aux idées des totalitarismes du XXe siècle, évidemment. Seulement, le problème en cela, je pense qu'on n'a pas compris qu'Éric Zemmour n'est pas que sur ces thématiques d'identité, d'immigration, de
sécurité. C'est essentiellement là-dessus qu'on l'entend. Hein.
C'est là-dessus qu'on l'entend, mais derrière, il faut bien entendre, me semble-t-il, qu'il y a une rupture beaucoup plus radicale avec le paradigme, c'est-à-dire qu'il dit aussi, mais personne ne veut l'entendre, il dit aussi que si vous avez la combinaison d'une monnaie surévaluée et d'un libre-échange total, vous êtes condamné à passer d'une industrie qui pèse 26% à 16% et demain 5 ou 10. Que si vous passez votre vie et vous mettez en priorité le remboursement de la dette, alors vous jetez à la poubelle des dizaines de sous-marins nucléaires par an de manière absolument vaine. Et ça ne peut pas être un projet pour les Français. C'est le projet qui est présenté comme le projet le plus, disons, le projet le moins simple, le plus réaliste, dans lequel il n'y a aucune alternative. Ce qu'on répète en permanence aux Français depuis 40 ans. Je pense que ça s'arrête.
Patrick Bonin, un mot sur cette phrase de Christian Estrosi, maire de Nice et ex-LR dans le journal du dimanche. Aujourd'hui, Zemmour, ce n'est pas De Gaulle, c'est à peine sa rature.
Oui, voilà une forme de communication beaucoup plus offensive. Vous noterez que c'est plus ramassé que le propos de M. Larcher, qu'on n'a d'ailleurs pas tous vraiment compris. Là encore, c'est qu'aujourd'hui, Éric Zemmour fixe une ligne et chacun va se mettre par rapport à lui. Ce qui, du coup, est une très bonne chose. On se demandait, mais quand est-ce qu'il va être candidat ? Ah ben, il va être candidat le plus tard possible. Parce que plus tard, il est candidat et plus tard, il est celui qui devient la boussole. D'autres arriveront peut-être, entre-temps, à fixer la nouvelle boussole médiatique.
Guillaume Bigot, vous avez 9 secondes.
Écoutez, je pense que Jacques Chirac était un peu au général de Gaulle ou à Georges Pompidou. Les clones de Claude François sont à Claude François. Et quant à M. Sarkozy, il était dans l'ombre de M. Chirac. Et M. Ciotti, il est dans l'ombre de M. Sarkozy lui-même, dans l'ombre de M. Chirac, lui-même dans l'ombre de M. Pompidou.
Voilà qui nous ramène très loin dans l'histoire. Merci beaucoup.
Voilà.
Merci.
Ça devient invisible à l'œil nu, si vous voulez.
Merci Guillaume Bigot, politologue, et Patrick Bonin, communicant directeur général de l'agence Jean, d'être venu débattre dans la matinale week-end. À 10h, on va retrouver Sonia Mabrouk pour le grand rendez-vous CNews Europe 1. Bonjour Sonia, qui est votre invitée aujourd'hui?
Bonjour à vous Isabelle et bonjour à tous. Notre invité aujourd'hui pour le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, c'est le philosophe et essayiste Alain Finkielkraut. Nous lui demanderons ce qu'il pense actuellement, vous venez d'en débattre, du climat de cette pré-campagne présidentielle. Et est-ce que selon lui, les vraies ou les grandes questions de son point de vue sont vraiment posées en ce moment?
Eh bien, on va entendre ça avec vous, Sonia Mabrouk, sur ces thèmes. Et on a hâte de vous retrouver donc avec votre invité ce matin, Alain Finkielkraut. On va parler d'une sorte de maladie, l'hubris. Les Grecs en parlaient il y a longtemps. C'est vraiment d'actualité, une sorte de maladie du pouvoir, d'orgueil démesuré. C'est tout de suite avec Brigitte Millot, notre docteur.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
Votre santé avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte.
Bonjour Isabelle.
Alors vous nous parlez ce matin d'un étrange agent pathogène qui est le pouvoir. Tiens, c'est bizarre, on en parle beaucoup en ce moment, on n'est pas loin de l'élection présidentielle. Et ce pouvoir que peut provoquer l'hubris. Mais c'est quoi l'hubris?
En fait, l'hubris, c'est un orgueil démesuré qui est lié essentiellement au pouvoir. En fait, ça a toujours existé. Hein. Déjà, dans la Grèce antique, ça existait. Et puis après, c'était même considéré comme un crime de pouvoir, parce que carrément, ça pouvait aller jusqu'à des violences.
C'est l'abus de pouvoir.
Oui, des abus de pouvoir, exactement. Après, les Romains un peu plus malins, eux, ils avaient compris et ils ne voulaient pas que les hommes se prennent pour des dieux. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand les généraux, après une victoire, paradaient sur leur char, ils mettaient un esclave sur le char et l'esclave n'avait de cesse de répéter « Memento mori, memento mori, memento, souviens-toi, mori, que tu es mortel !» pour un peu le calmer, quoi.
Alors, quel est le rapport avec la santé, Brigitte?
En fait, le rapport avec la santé, il est survenu... Alors là, on fait un grand pas dans l'histoire. Hein. Il y a quelques années, deux médecins anglais... On se sont dit, mais c'est fou quand même. Dès qu'il y a du pouvoir, tout à coup, ça change les gens, ça les transforme, ça change leur personnalité. Et ils ont décrit comme ça 14 critères, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous citer les 14, mais peut-être que certains vont se reconnaître ou vont reconnaître certains. Une perte du sens des réalités, une intolérance à la contradiction, une confiance excessive en son propre jugement et un mépris pour les conseils et les critiques des autres, une obsession de sa propre image et, comme vous le disiez très justement, un abus de pouvoir.
Mais ce sont surtout des symptômes que l'on retrouve en politique.
Alors oui, vous avez remarqué, hein,
c'est dingue.
Mais pas qu'en politique, dans le showbiz, les gourous aussi sont comme ça malades de leur pouvoir, mais parfois aussi dans d'autres au bureau. Tout à coup, il suffit qu'il y en ait un qui ait une promo et hop, il change, c'est plus le même.
Et il devient hubristique.
Et il devient hubristique, voilà.
Ça peut toucher tout le monde alors?
Alors ça touche plutôt... les hommes.
Je voyais venir déjà, Brigitte.
Un petit peu plus. Il y a les femmes hubristiques. Hein,
oui, bien sûr.
Quand même. Alors, en fait, il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a des neurotransmetteurs et des hormones qui sont sécrétées dans le cerveau. Dès qu'il y a du pouvoir, tout à coup, il se passe plein de choses dans notre cerveau. Vous savez que c'est lui qui gère tout. Hein. Donc, il va se mettre à sécréter de la dopamine. La dopamine, c'est quoi? Comme son nom l'indique, vous êtes dopé, vous êtes en pleine forme, vous pouvez travailler pendant des heures, vous avez l'impression d'être plus intelligent, etc. Et la testostérone. Il ne vous aura pas échappé que la testostérone, il y en a un peu plus chez les hommes, même s'il y en a chez les femmes. Et surtout, c'est utilisé aussi comme dopant chez les sportifs. Donc tout ça, vous voyez, vous vous sentez un super mec, quoi.
Mais ça peut être terrible pour certains s'ils se rendent compte qu'ils sont malades.
Alors, ils ne se rendent pas compte.
Ah, c'est ça.
Ça, c'est vraiment ce qui caractérise tous les hubristiques, c'est qu'ils n'en sont
on
pas...
On est malade, non, on ne le sait pas.
Non, et puis en plus, comme leur petite cour autour, en général, les flatte, Monseigneur, que tu es beau, oh, ton discours était formidable alors qu'il était nul, enfin bon, voilà.
Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là?
Ben, il faudrait en fait faire comme les Romains faisaient, avoir quelqu'un justement, soit son conjoint, sa compagne, qui, de la famille, les amis, des proches, qui puissent vous parler et qui puissent vous dire « mais tu as changé là, calme-toi, te prends pas pour un dieu ». En plus, même pour eux, c'est terrible, parce que quand le pouvoir s'arrête, parce que la différence entre les narcissiques Et les hubristiques, c'est que narcissique, c'est une personnalité.
Ils sont nés avec.
Ils sont nés avec. Alors que l'hubristique, il devient hubristique avec le pouvoir. Et quand le pouvoir s'arrête, là, ça peut aller jusqu'à des dépressions. Hein. Donc le mieux, c'est quand même de les protéger et de leur dire la vérité et de leur remettre les pieds sur terre.
Et de leur dire, memento mori, souviens-toi voilà. Que tu es mortel, ce sera le dicton du jour.
On va se le dire tous les jours.
Merci beaucoup, docteur Brigitte Millot, c'était votre soin de santé.
La matinale week-end, CNews, Europe 1, Isabelle Moreau.
– 8h30 à l'instant, la matinale week-end se poursuit avec vous, Elisa Lukavski, et les principaux titres de l'actualité.
– Ils s'appellent les Dalton et ils ont été interpellés alors qu'ils étaient en plein rodéo urbain dans la banlieue lyonnaise. Ces derniers mois, ces membres d'un groupe de rap du 8e arrondissement de Lyon étaient apparus dans plusieurs clips où ils réalisaient justement des rodéos sauvages sur la voie publique. Les explications de Marion Delpech.
– Clap de fin pour une partie des Dalton. Habitués des rodéos sauvages en plein centre-ville de Lyon, ces individus vêtus de jaune et noir ont été surpris hier par un dispositif de police. Trois d'entre eux ont été interpellés et placés en garde à vue selon la police nationale du Rhône. Et ce, alors qu'ils venaient de faire part sur les réseaux sociaux de leur intention de rouler à toute allure sous les fenêtres du maire de la ville. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a réagi à ces interpellations.
Aucune impunité face aux rodéos urbains qui pourrissent la vie des habitants de certains quartiers. Merci aux policiers de Lyon pour cette opération qui vient mettre un coup de frein à ces pratiques inadmissibles et dangereuses.
Le collectif des Dalton, estimé à une dizaine d'individus, s'était fait connaître par le tournage sauvage de clips mettant en avant des armes et de la drogue, ainsi que la pratique du rodéo urbain dans les rues de Lyon.
Éric Zemmour est toujours en Normandie en attendant Caen. Aujourd'hui, il s'est rendu à Touques, près de Deauville, hier, avec une déambulation dans les rues de la ville. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes. Il n'est toujours pas candidat à la présidentielle, l'écrivain et polémiste, mais il multiplie les rendez-vous auprès de la population ces dernières semaines. Au programme hier, séance de dédicace et le tour des commerçants de la commune. Et puis du sport pour terminer avec ce match nul hier entre Lille et Brest pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Les Lillois qui n'y arrivent toujours pas. Troisième rencontre sans s'imposer après ce nul concédé sur leur pelouse face au 19e du championnat. Ça avait pourtant bien commencé pour le champion de France en titre avec l'ouverture du score de Jonathan David. Très beau contrôle orienté et puis but. Moins d'un quart d'heure plus tard, égalisation de Romain Fèvre. Un partout, Lille 9e ne se place pas dans les meilleures dispositions avant de jouer le PSG en championnat et le FC Séville en Ligue des Champions, le tout en l'espace de seulement 10 jours.
Ça va être un vrai marathon. Merci beaucoup Elisa. Mathieu Alterman nous a rejoint. Bienvenue Mathieu. Ce matin, vous nous parlez d'un événement musical, politique et littéraire, la sortie mardi de Renegades Born in the USA, le livre de Barack Obama et Bruce Springsteen.
Jour, musique.
Mais oui, avec Bruce, forcément musique.
Le boss.
Très patriotique, faut-il le préciser ?
Absolument, mal comprise à l'époque par Ronald Reagan qui l'utilisait pour des mauvaises raisons. Alors, en apparence, Bruce et moi n'avons pas grand-chose en commun, explique Barack Obama. C'est un blanc d'une petite ville du New Jersey. Je suis noir, métis, né à Hawaï. C'est une icône du rock et, faut le dire, je ne suis pas aussi cool. Alors, ce livre tant attendu, c'est la transcription finalement, écrite et traduite dans notre langue, du podcast qu'ils ont en commun, diffusé sur Spotify depuis quelques mois, qui s'appelle Renegades, comme vous l'avez dit. Alors, on peut traduire par renégats, des gens en tout cas qui se sont extraits de leur destin pour accomplir quelque chose pour lequel ils n'étaient absolument pas faits au départ. Alors, ils y discutent famille, voyage, racisme, musique, société, sur un ton plutôt amical. L'ouvrage est décrit comme une collection de conversations candides, intimes et divertissantes, publiées dans un format très prestigieux avec des photos inédites, des discours manuscrits annotés par Barack Obama ou des paroles originales de Bruce Springsteen. C'est le cadeau idéal en fait. Alors, on ouvre les guillemets. Au fil des années, nous avons découvert que nous avions une sensibilité commune, écrit Obama dans les premières pages du livre, sur le travail, sur la famille, sur l'Amérique. Bruce et moi, nous avons effectué des voyages parallèles et pour essayer de comprendre ce pays qui nous a tant donné.
Voilà pour ces quelques petites phrases. Pourquoi est-ce que cette association qui a l'air évidente maintenant, mais elle ne l'était pas forcément sur le papier ?
Parce que ce sont deux héros, effectivement, qui n'avaient rien pour accomplir un tel destin. C'était des outsiders, comme se plaît à le dire Barack Obama. Et Bruce Springsteen va encore plus loin et dit « Mais j'étais pas outsider, je venais d'une région, il n'y avait rien. Je n'avais aucune chance. » En fait, ils se sont rencontrés en 2008, peu avant l'élection américaine, lorsqu'Obama n'était pas encore la superstar qu'il est devenu. C'était devant un meeting, devant 80 000 personnes à Cleveland, dans une région vraiment industriel décimé par la crise. En fait, Bruce Springsteen, il faut rappeler qui c'est quand même. Il appartient à l'histoire américaine. Il a incarné le héros américain, alors qu'il venait du New Jersey, en 1975, avec le succès de Born to Run, à un moment où l'Amérique sortait de la guerre du Vietnam, était totalement au plus bas de l'humeur. Il y avait besoin de nouveaux héros. Alors, il y a eu Bruce Springsteen pour la musique, et à la même époque, il y a eu Rocky avec Stallone au cinéma. C'était pas les plus flamboyants, c'était pas les plus beaux, mais c'était les plus authentiques. Quant à Barack Obama, bah, il a grandi à Hawaï, abandonné par son père, et il a incarné un immense espoir dans un pays rongé par le racisme. Aujourd'hui, l'ancien président est plus populaire en Europe qu'aux États-Unis. Bruce Springsteen est une star dans le monde entier, mais c'est un demi-dieu aux États-Unis. Et leurs échanges sont là pour nous rappeler que bah, l'Amérique, c'est complexe. Il ne faut jamais sous-estimer la complexité américaine. On ouvre les guillemets, c'est le moment de réfléchir sérieusement à qui nous voulons être et au genre de pays que nous laisserons à nos enfants, ajoute le musicien dans l'introduction. Dans ce livre, vous ne trouverez pas les réponses à ces questions, mais vous trouverez un couple de chercheurs faisant de leur mieux pour nous amener à poser de meilleures questions. Born in USA.
Merci beaucoup Mathieu. Pas de grandes déclarations fracassantes donc à attendre. Mais en tout cas, un livre qui plaira au moins aux fans de Bruce Springsteen.
Et aux passionnés de l'Amérique.
Et aux passionnés de l'Amérique, tout simplement. Merci beaucoup Mathieu. Ce livre sort donc mardi. Dans quelques instants, juste après votre météo, vous retrouvez Jean-Pierre Elkabbach, son invité ce matin, le juge Édouard Durand, président de la CIVISE. C'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.
La matinale week-end, CNews Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach.
Bonjour à tous. Les violences conjugales, les enfants, l'inceste. Sujet particulièrement difficile. Et en tout cas, on va le traiter avec vous. Édouard Durand, bonjour, merci d'être avec nous. Vous co-présidez la commission qui écoute, qui révèle des travers et des méfaits cachés de notre société, d'une société de plus en plus violente. Alors, à la demande de l'Église, Jean-Marc Sauvé s'était attaqué à la pédophilie dans l'Église. Vous êtes en quelque sorte les héritiers de cette bataille. Et votre cible, ce sont les secrets inavoués d'une société, la nôtre.
Absolument, oui, oui, vous avez raison. D'une part, l'Église de France a décidé de faire la lumière en son sein sur les violences qui étaient commises par des clercs contre les enfants. Et en août 2020, Adrien Taquet, secrétaire d'État à la protection de l'enfance, a voulu créer cette commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants pour que les enfants soient mieux protégés.
Et alors, l'inceste, j'ai l'impression que désormais, il est appelé par son nom. L'inceste, et ce qui est nouveau, me semble-t-il, c'est que vous mettez des mots sur un phénomène qui a une ampleur insoupçonnée. Et on va s'en rendre compte avec vous. Combien sont concernés par les violences déjà dans les couples ?
Alors, nous savons, s'agissant des violences conjugales, qu'une femme sur 10 est victime de violences conjugales. Et pour la commission de l'Église, Jean-Marc Sauvé a fait réaliser une grande enquête en population générale qui est venue confirmer ce que nous savions déjà, que une personne sur 10 dans la population française a été victime de violences sexuelles dans son enfance.
Ça fait des chiffres énormes.
Ce sont des chiffres absolument considérables. Nous pouvons dire qu'au moins 160 000 enfants chaque année en France sont victimes de violences sexuelles. Ce sont des chiffres absolument considérables.
Ce sont des filles, surtout.
Ce sont des filles majoritairement, mais des garçons aussi. Les agresseurs s'attaquent aux enfants qui sont des personnes vulnérables. Des filles le plus souvent, mais aussi des garçons.
Et la dénonciation publique de l'inceste a lieu aujourd'hui. Elle revient même périodiquement. Mais pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt, puisque ça concerne 160 000 enfants par an ?
Je dirais que progressivement, c'est sédimenté dans la conscience collective la compréhension de l'extrême gravité de ces violences sexuelles. Non seulement de leur gravité, mais de la responsabilité que nous avions à protéger nos enfants. Vous vous souvenez qu'à la fin des années 80, Eva Thomas publiait son livre « Le viol du silence » et sur un plateau de télévision comme aujourd'hui, on banalisait, on minimisait, on faisait comme si ce n'était pas grave. Et puis d'autres livres ont paru et des affaires ont choqué l'opinion publique qui a dit « il faut changer ».
Il y a eu des plaintes, il y a des plaintes. Avec quel résultat ?
Il y a des plaintes, pas assez de plaintes. Notre système doit inspirer davantage confiance aux personnes adultes qui protègent les enfants et aux enfants eux-mêmes. Aujourd'hui, nous savons que 70% des plaintes sont classées sans suite et que, toute violence sexuelle confondue, il y a à peu près 1000 condamnations par an. 160 000 enfants victimes, 70% de classement sans suite, moins de 1000 condamnations par an. Nous avons un travail colossal à faire pour lutter contre l'impunité des agresseurs.
Vous expliquez que les enfants ont toujours parlé, qu'ils parlent, mais à qui et quand ?
C'est déjà très important d'avoir conscience de ça, parce que on dit ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la libération de la parole. C'est vrai, nous pouvons appeler ce mouvement la libération de la parole, à condition d'avoir présent à l'esprit que les enfants ont toujours parlé, qu'ils
mais
ont toujours montré des signes et qu'ils ont besoin de parler à tout le monde, mais d'abord à des adultes en qui ils peuvent faire confiance. Vous savez, moi je suis juge des enfants depuis une vingtaine d'années, j'ai travaillé avec beaucoup d'enfants, avec beaucoup de professionnels.
Et vous leur parlez tête à tête.
Et je leur parle.
Sans personne.
Oui, en audience, seul. Le moment de l'audience où ils sont seuls avec moi et où il faut aller chercher la révélation de la violence. Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait du mal ? Est-ce que tu as déjà eu peur ? Et toutes les personnes adultes qui ont écrit sur les violences qu'elles avaient subies dans l'enfance le disent. Ce qui m'a longtemps empêché de parler, c'est la peur de ne pas être cru.
Et comment vous repérez le jeune qui a subi, qui souffre et qui a du mal à partager son secret ?
De deux manières. La première, c'est par les signes de sa souffrance, parce que les violences, et particulièrement les violences sexuelles et notamment l'inceste, causent des souffrances absolument majeures.
Et qui durent toute une vie.
Et qui durent toute la vie. Et cette souffrance se voit dans l'isolement ou au contraire l'agressivité, dans l'impossibilité de se concentrer, de jouer avec ses camarades. Ça, c'est le repérage par les signes, la souffrance. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le repérage systématique. Ouvrir des espaces, particulièrement à l'école, où on va parler de la violence, de la maison.
Dans le meilleur des cas, parce qu'il y a une gamine de 14 ans qui s'est pendue, Dina, à Mulhouse, parce qu'elle parlait à personne, ou peut-être à ses parents, mais sans effet. Le lieu de l'inceste, c'est la maison, la famille.
Le lieu de l'inceste, c'est la maison, c'est la famille. Vous savez, l'une des plus grandes et des plus graves inégalités entre les êtres humains, c'est celle qui sépare les personnes qui vivent dans une maison qui est un lieu de sécurité et celles qui vivent dans une maison qui est un lieu de danger et de confrontation à la mort. Je vais rentrer chez moi tout à l'heure dans ma maison où je suis en sécurité. Nous devons garantir que chaque personne, et quel que soit son âge, peut rentrer dans une maison de sécurité. On ne peut pas se construire.
Oui, mais comment faire quand le père qui est celui qui doit protéger est le premier violeur.
Oui, c'est très important d'arriver à comprendre que ce travail sur la lutte contre les violences, que j'appelle les violences de l'intime, les violences de la maison, est aux frontières des grandes libertés individuelles et de l'ordre public. Pour ça, je le redis, il faut aller chercher la révélation de la violence. Il faut croire l'enfant qui révèle des violences et le protéger immédiatement, parce qu'un enfant qui révèle des violences et qui n'est pas protégé perd confiance dans le monde des
adultes. Et il faut dire que ça concerne tous les milieux sociaux, les riches comme les pauvres, les quartiers chics de Paris comme la campagne, des villages ou des grandes villes. Mais la famille élargie. Mais d'abord, qui est concerné ?
Tous les enfants, pour victimes, et s'agissant des agresseurs, pour l'inceste, le père, beau-père, grand-père, oncle, frère, cousin. Vous savez, ce qui est très important d'avoir présent à l'esprit, c'est ça, c'est-à-dire l'asymétrie, le pouvoir, la violence, y compris quand elle passe par le sexuel, est toujours un instrument pour obtenir le pouvoir sur l'autre et en faire sa chose.
Mais elle passe toujours par le sexuel, par l'acte sexuel.
Oui, la violence sexuelle, bien sûr, c'est toujours une atteinte à l'intégrité de l'autre pour le réduire à un objet pour obtenir une jouissance sexuelle.
Édouard Durand, vous avez sans doute entendu un parent un jour en colère vous clamer « ces actes ne regardent personne ». Je suis chez moi, dans un lieu qui est privé, à la maison, ça ne vous regarde pas.
Or, ça nous regarde, parce que c'est la loi. La loi n'est pas neutre. La loi dit la protection et la loi réprime la transgression. Et on ne transgresse pas la loi impunément.
Mais vous avez la réputation de ne pas être neutre et de ne pas être impartial. Vous le reconnaissez ?
Vous savez, je dis souvent, la neutralité, c'est une bonne planque. La loi ne l'est pas. Nous ne devons pas l'être. Nous devons être du côté de la loi. Nous ne pouvons pas nous réfugier derrière une interprétation confortable des principes. Parfois, nous avons tendance à interpréter nos principes fondamentaux de sorte qu'ils font écran entre le réel et l'application de la loi. Nous devons les mettre en œuvre d'une façon qui soit davantage protectrice. Ces enfants existent, 160 000, ils existent. Et nous devons aller les chercher pour les protéger.
Et vous dites qu'il y a le loup et l'agneau, et on ne s'abstient pas. Votre métier, votre vocation, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est juge des enfants. Et on m'a confié que vous n'hésitez jamais à mettre des mineurs et même des enfants en prison.
Oui, parce que c'est la loi, il ne faut banaliser aucune transgression, y compris quand elle est commise par un enfant. Mais il faut aussi rappeler que si l'enfant doit être sanctionné, parfois très sévèrement, parce qu'il a transgressé la loi et porté atteinte à l'intégrité d'autrui, il faut réprimer sévèrement les violences qu'il a subies dans la maison, dans son enfance.
On va encore plus loin. Parfois, c'est toute une vie avec des maladies, des douleurs physiques non identifiées, qui vont se manifester et qui coûtent cher à la collectivité.
Oui, c'est très important, monsieur, de le dire de cette façon-là. Vous savez, à la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, depuis le 23 janvier, le jour où le président de la République nous désignait pour la présider, nous avons reçu des personnes de tous âges, parfois très âgées, qui sont venues nous décrire le présent perpétuel de la souffrance, le dos, des douleurs gynécologiques, une attaque de la vie affective et sexuelle, des atteintes psychiques, ce qu'on appelle le psychotrauma, ce qui fait qu'il ne s'agit pas d'un mauvais souvenir, mais d'une souffrance toujours contemporaine.
Et d'un souvenir qui reste. Alors vous êtes en train de tourner dans les villes, vous étiez à Nantes la semaine dernière, vous allez à Amiens, à Bordeaux, avec des témoignages qui sont publics, et les gens se racontent, ils arrivent à se libérer, même s'ils pleurent devant vous, ils arrivent à se libérer et à le dire.
Oui, nous avons vécu à Nantes, il y a quelques jours, un moment magnifique parce que nous avons présenté la commission quelques minutes et puis nous avons donné la parole. Une première femme a pris le micro, c'était difficile pour elle, mais elle a été une personne qui était présente. Et puis, elle a dit les violences qu'elle a subies, à la fois les souffrances qui lui sont infligées et son espoir, sa volonté, son exigence que la société change. Et pendant 2 heures, le micro a passé de main en main dans une grande solidarité. Ce qui est très fort dans la période que nous vivons, c'est la grande solidarité entre les personnes qui ont été victimes de violences dans leur enfance.
Il y a 100 avocats conduits par maître Karen Nomlinski qui se plaignent du comportement jusqu'ici des gendarmes et des policiers dans les commissariats, qui sont à la fois sceptiques, sarcastiques et machos. Est-ce que ça peut changer? Ça va changer, je pense.
Oui, ça doit changer. Oui. Il faut que chaque corps professionnel, quel qu'il soit, et particulièrement les institutions de protection, la police, la justice, le soin, soit davantage formé et spécialisé à la prise en compte des violences infligées aux êtres humains.
Le président de la République, vous l'avez dit tout à l'heure, vous a confié 400 millions pour une mission de 2 ans. Mais est-ce qu'il faut vraiment attendre 2 ans quand vous dites que c'est 160 000 par an, ce qui ferait 320 000 blessés, perturbés pour toute une vie. Mercredi, vous allez prononcer le premier avis de la commission. Il sera précis, ferme, avec des pistes de décision.
Oui, merci de me donner l'occasion d'en parler, cher monsieur. Une commission doit rendre ses conclusions au terme de son mandat. Pour nous, c'est dans 2 ans.
Mais là...
Et la protection des enfants n'attend pas. À chaque fois que nous serons en mesure d'y faire de préconisations, nous les ferons dès la semaine prochaine parce que depuis le 23 janvier, nous sommes saisis très massivement et jusqu'à l'appel à témoignages de façon quasiment exclusive.
Oui, et qui monte. Les témoignages montent. Vous avez dit 4 200, 5 000 ce jour en quelques mois.
En 4 semaines, près de 5 000 témoignages. Mais des mères nous écrivent pour nous dire « Mon enfant, en rentrant de week-end, m'a révélé que son père l'avait violé. J'ai appelé la police, j'ai appelé la justice. On m'a dit que je mentais. » Nous disons que cette situation doit changer. Ce sera notre premier avis qui sera publié mercredi avec des recommandations très claires.
Mais est-ce que, par exemple, vous pouvez obtenir qu'un père marié ou divorcé et qui viole son enfant perde d'un coup ses droits ?
C'est l'une des pistes que nous allons explorer, que nous allons formuler extrêmement clairement. Y a-t-il plus grave transgression de l'autorité parentale que de violer son enfant?
Et donc à partir de là, celui qui viole...
Nous devons aller dans ce sens. Et si l'on nous oppose des principes, c'est que nous les interprétons mal.
Parce que souvent, la femme qui se plaint, l'épouse qui se plaint, il lui arrive plutôt des misères. Elle est en garde à vue ou elle est mise en examen.
Oui, elle est confrontée à un choix qui est un choix extrêmement difficile, cornélien. Est-ce que je protège mon enfant? Est-ce que je me mets en danger si je ne respecte pas le droit de visite et d'hébergement du père dont l'enfant me dit qu'il est un agresseur?
Donc la justice doit être encore plus sévère. Plus rapide et plus sévère.
Oui, il faut renforcer ce que Ernestine Ronet appelle la culture de la protection. Nous devons faire passer, avant tout, le principe de la protection des enfants.
Ce sont devenus des questions de société, des questions politiques. Ces sujets douloureux, est-ce que vous souhaitez, Édouard Durand, qu'ils soient abordés pendant la campagne de 2022, les élections présidentielles, sachant qu'il s'agit ni de droite, ni de gauche en l'occurrence?
Bien sûr, il s'agit de nos enfants et de la façon dont nous pensons comme groupe humain. Nous constatons par ce mouvement de très grande ampleur une vague qui était souterraine et qui émerge, qu'il y a une aspiration très forte à renforcer cette culture de la protection. C'est aussi un enjeu politique, bien sûr.
Je fais le pari que nous vous reverrons régulièrement. Merci beaucoup.
Merci.
Merci d'être venu.
Merci Jean-Pierre Elkabbach. Merci à vous Édouard Durand pour cette parole très forte. On vous retrouve Jean-Pierre dans Repères sur CNews à 17h avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette matinale week-end. À la semaine prochaine. D'ici là, profitez bien de votre dimanche et de vos vacances si vous en avez.
La matinale week-end, CNews Europe 1.